Et nous retrouvons tout de suite Agora, le magazine de la rédaction, en partenariat avec Maxentre, présenté aujourd'hui par Sophie Deschamps et Frédéric Sabouin. Bonjour à tous.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Loiret reste connecté, ou du moins est laissé, puisque le conseil départemental s'engage à proposer la fibre à tous les Loiretains à l'horizon 2025, y compris pour ceux qui habitent dans les plus petites communes. Et pour en parler, notre invité est Frédéric Nérot, vice-président du Loiret, chargé du développement des territoires. Frédéric Nérot, bonjour.
Bonjour.
Le département généralise la fibre sur son territoire d'ici 2025. C'est un chantier qui est ouvert depuis longtemps dans le Loiret. Offrir Internet et le bouquet numérique au plus d'habitants possible, c'est un chantier qui occupe le Loiret depuis longtemps.
Bah oui, c'est effectivement un chantier qui occupe le département du Loiret depuis bientôt 15 ans. Alors, ce qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit quand on parle de la politique du département dans le domaine du numérique, c'est qu'on n'est pas dans un domaine de compétences obligatoires traditionnelles du département, comme peuvent l'être les collèges ou les routes départementales ou la gestion des allocations de solidarité. C'est une compétence dont s'est emparé, enfin au sens positif du terme, le département au début des années 2000, parce que il se rendait compte, et d'autres collectivités avaient fait le même constat à l'époque, que s'il n'y avait pas une forte implication des collectivités locales, on risquait d'avoir une véritable fracture numérique, parce que il faut être clair, investir dans le numérique en milieu urbain, c'est rentable. Investir dans le numérique dans des petites villes ou a fortiori dans des communes rurales, ça l'est beaucoup moins, voire pas du tout, avant un certain nombre d'années. Et donc, il était absolument indispensable de créer un réseau d'initiatives publiques en dehors de l'agglomération orléanaise et de Montargis, ce à quoi s'est attelé le département en 2004.
C'était pour éviter de rééditer les erreurs, parce qu'il y en a eu dans tous les départements des années 90, avec l'installation partout des antennes de téléphonie mobile, où on a dit finalement, oh là là, non, non, ça, on va laisser ça au privé. Et puis finalement, les départements, hein, et certainement aussi le Loiret, ont fini par mettre la main à la poche pour aider à l'installation d'antennes dans des zones très rurales, parce que les conseillers généraux de l'époque disaient, bah, c'est bien gentil, mais nous, quand on est sur notre circonscription, enfin sur notre territoire, on n'a pas le téléphone mobile. C'est pour éviter ce genre d'erreur. Il y a des choses qu'on peut laisser au privé, en clair, hein, il y a des choses qu'on peut laisser au privé, il y a des choses qu'il faut laisser au public, mais parfois, il faut mixer les deux.
Alors, une petite précision, le département n'est jamais intervenu en matière de téléphonie mobile.
Pas celui-ci, mais il y a des endroits en France
où
c'est arrivé.
Oui, certains départements ont fait ce choix.
Le département de la Charente, pour pas le
nommer. Considérant que c'était l'affaire des opérateurs et de l'État, départements ne peuvent pas être sur tous les fronts. En revanche, on s'est engagé effectivement dans le domaine du numérique parce qu'on ne voulait pas clairement qu'il y ait un territoire à deux vitesses. On sait déjà tous les problèmes que connaît la ruralité en termes d'accès aux soins, en termes d'accès aux services public et sur beaucoup d'autres sujets. Donc on ne souhaitait pas qu'il y ait une rupture de plus qui soit celle du numérique. D'où l'engagement de cette politique qui s'est toujours voulue volontariste et en même temps réactive. Et j'insiste sur la réactivité parce qu'on est dans un domaine qui est celui des nouvelles technologies, et ces nouvelles technologies évolue sans arrêt. Par exemple, là, on va s'engager dans le THD radio. THD radio, il y a encore quelques années, voire même moins longtemps, on n'en parlait pas. Donc il faut en permanence suivre le progrès technologique de façon à pouvoir identifier quelles sont les réponses les plus adaptées aux besoins qui sont ceux des habitants, qui sont d'avoir d'abord un haut débit de qualité et puis demain le très haut débit pour tous.
D'où cette nouvelle délégation de services publics Liceo. Il y en a eu une première en 2004, c'était Médialis, d'ailleurs elle court encore. Qu'est-ce que va apporter cette nouvelle délégation, Frédéric Nérot?
Alors déjà, si vous voulez, pour bien comprendre ce que va apporter la nouvelle délégation, il faut quand même dire rapidement ce qu'ont apporté les autres. Sinon, ça pourrait être difficilement compréhensible par les auditeurs. Médialis a eu pour objet principal de procéder à un dégroupage des centraux téléphoniques, ce qui a permis aux usagers de pouvoir bénéficier de la concurrence entre les opérateurs. On a commencé, dans le cadre de Médialis, de résorber des zones blanches en faisant ce qu'on appelle des opérations de montée en débit. On a commencé de faire de la desserte de bâtiments publics prioritaires et de zones d'activité. En 2014, a été engagée une nouvelle étape avec Liceo. Liceo, on a terminé la desserte des zones d'activité prioritaires et des bâtiments publics, et on a vraiment choisi de mettre le paquet, si je puis dire, sur deux priorités. La première, de résorber les zones blanches en faisant donc des opérations de montée en débit dans 115 communes.
Alors les zones blanches, on précise que c'est les zones où là, justement le courant Internet n'arrive pas, la connexion Internet n'arrive pas ou mal.
Oui, pour être clair, ce sont des zones où soit les habitants sont inéligibles, soit ont des débits qui sont très faibles, souvent de l'ordre de 0,5 mégas. Donc, bien évidemment, ne permettant pas les usages que facilite la DSL. Donc, dans le cadre de l'ICO, on a entrepris d'installer des centraux téléphoniques dans 115 communes, ce qui permet ces opérations de monter en débit, alors qu'il est, on en a réalisé à peu près entre 70 et 80, et on a commencé d'installer la fibre à l'abonné, d'abord dans 14 communes, et récemment étendu à 18 communes supplémentaires. Donc ça, c'est l'ICO. Et là, on engage en quelque sorte une nouvelle phase dans le cadre de cette politique de déploiement numérique avec deux objectifs. Le premier, c'est d'assurer à chaque Loiretain une couverture à hauteur de 8 mégabits d'ici fin 2020. Alors, tout ce que j'ai indiqué qui est mené dans le cadre de l'ICO s'inscrit dans cet objectif. Mais on va plus loin en ajoutant 7 communes où on installe un central téléphonique et d'autre part en recourant, et ça c'est une nouveauté, au THD radio dans 40 communes, mais avec des résultats qui impacteront 60 autres communes. Donc c'est 100 communes, si vous voulez, qui vont être concernées par le THD radio. Alors qu'est-ce que c'est que le THD radio?
Voilà, on allait vous demander.
Vous alliez me le demander.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une...
On allume la radio, il y a Internet.
Non,
oui, mais il faut être très très basique, Frédéric.
C'est une technologie qui repose sur les liaisons hertziennes et qui est très régulée. Et nous ne pouvions nous engager dans cette politique qu'à partir du moment où l'ARCEP, qui est le régulateur, l'autorité de la régulation des communications électroniques et de la Poste, donnait le feu vert en accordant une licence à un opérateur qui est notre partenaire, qui s'appelle WeAccess. WeAccess a obtenu sa licence le 27 juillet et se voit donc attribuer des bandes de fréquences, et ce qui va permettre le déploiement de ce THD radio dans au total une centaine de communes et assurer un débit qui est compris entre 8 et 30 mégabits.
Oui, ce qui est donc déjà un petit peu correct quand même.
Ce qui est même plus que correct. Puisque le seuil qui est considéré comme étant le seuil du haut débit de qualité, qui en tout état de cause permet de naviguer confortablement sur Internet, d'avoir la télévision et le téléphone fixe dans de bonnes conditions, c'est 8 mégas. Donc ça assure en tout état de cause et sans avoir les inconvénients de la DSL, parce que l'un des inconvénients de la DSL, on nous le dit souvent à juste titre, c'est la qualité du réseau téléphonique d'Orange, parce que nous intervenons quand nous faisons des opérations de montée en débit sur le réseau téléphonique. Quand le réseau téléphonique est d'une qualité médiocre, ça génère de la perte en ligne. Une technologie hertzienne permet bien évidemment de s'affranchir de cet inconvénient. Donc accès à un haut débit de qualité pour tous d'ici fin 2020. Et l'étape suivante, qui va faire l'objet effectivement d'une nouvelle délégation de services publics, eh bien c'est la décision qu'a prise le département de faire les investissements nécessaires en s'adossant à un opérateur, enfin un délégataire qui sera choisi au cours de l'année prochaine, eh bien d'assurer le fait que l'ensemble du territoire loiretain, urbain comme rural, mais urbain, ça aura déjà été fait d'ici là dans le cadre de l'ICO, mais en tout cas pour les communes rurales, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte de la fibre avant fin 2025.
RCF, la joie se partage.
Vous écoutez Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Maxentre et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Frédéric Néraud, vice-président du Loiret chargé des territoires, et nous parlons de la couverture numérique du Loiret. Une grosse affaire, Frédéric.
Combien ça coûte tout ça, Frédéric Néraud? Parce qu'on parle beaucoup d'investissements, de choix qui sont des choix politiques importants. Enfin, ça dépasse même la politique, mais tout ça, ça représente quelle somme? Juste pour qu'on ait une idée pour
Ça représente des grosses sommes. Ouais. L'ICO, donc, qui est en cours, c'est 150 millions d'euros d'investissement.
Sur une année.
Entre 2015 et 2021, sur les 150 millions, le département est le plus gros financeur puisqu'il intervient à hauteur de 52 millions. Le délégataire Loiret-THD, qui est une filiale de SFR Collectivité, à hauteur de 50 millions. Le reste étant partagé entre l'État, la région et, nous l'espérons, un financement européen au titre des programmes FEDER et FEADER. Ça, c'est ce qui est en cours. La délégation de services publics future, qui permettra la généralisation de la fibre, on évalue son coût à 180 millions d'euros. Mais avec, selon toute vraisemblance, et c'est même une certitude, un financement public qui sera bien moindre, parce que les choses ont changé. Aujourd'hui, les grands opérateurs investissent beaucoup plus qu'ils ne le faisaient il y a quelques années. Bon, nous sommes convaincus qu'il sera quand même nécessaire qu'il y ait un financement public complémentaire de l'effort du délégataire qui sera retenu, mais en tout état de cause, on ne sera plus sur un engagement en termes de financement public à la même hauteur que celui qui existe pour l'ICO.
Derrière ces choix, il y a de dire que c'est important pour les habitants du Loiret d'avoir une bonne couverture Internet, que ça permet de rompre l'isolement, de pouvoir travailler à distance, de pouvoir faire de la télémédecine, comme on en parle parfois, y compris dans ces émissions. Mais c'est aussi de dire que des entreprises ou des entrepreneurs qui veulent s'installer quelque part, on l'a déjà entendu, il me semble, la première question qu'ils posent, c'est pas tellement s'il y a une ligne de bus ou s'il y a des médecins à côté, c'est est-ce qu'il y a le très haut débit chez vous ? C'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Mais je dirais que finalement, bon, vous isolez, et à juste titre, d'une certaine façon, les particuliers des entreprises, mais les motivations sont quand même un peu les mêmes. Mmh. Bon, on va prendre d'abord les entreprises. C'est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer valablement une zone d'activité si elle n'est pas raccordée à la fibre.
Point.
Donc, ouais. On l'a fait pour toutes les zones d'activité qui étaient considérées comme prioritaires, et on va maintenant s'atteler à continuer de le faire, puisque c'est déjà en cours, pour des zones d'activité plus secondaires, des zones artisanales. Bon, c'est effectivement indispensable pour l'économie. Mais pour les particuliers, vous l'avez dit vous-même, c'est absolument indispensable. Et on parle beaucoup aujourd'hui de l'intergénérationnel. Là, on est dans l'intergénérationnel, parce que on est dans l'intersocioprofessionnel aussi. Aujourd'hui, tout le monde a besoin du numérique. Bon, d'abord, alors je dis pas que c'est la motivation la plus agréable, mais pour payer ses impôts même.
C'est bien pratique, comme on dit
par chez moi. Pour organiser un voyage, quand il s'agit d'un agriculteur, faire sa télédéclaration de la PAC ou à la Mutualité Sociale Agricole, pour le télétravailleur, les parents d'élèves sont également très sensibles à ça, parce que leurs enfants,
sur Pronote,
des fois ils acceptent mal qu'ils puissent être défavorisés par rapport à ceux d'une commune voisine où le débit est plus important, ce qui permet quand même des conditions de travail pour les enfants préférables. Bref, le numérique, aujourd'hui, c'est un fait, il est au cœur de la vie de la plupart d'entre nous, et je suis d'ailleurs frappé quand nous faisons des réunions, on en fait beaucoup, réunions publiques d'information dans les communes à l'occasion de chaque équipement, de voir qu'il y a beaucoup de retraités qui y participent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le tournant il est pris. Bon, on sait qu'il y a encore une part de la population qui n'est pas internaute, ce qui n'est pas d'ailleurs sans lui poser beaucoup de problèmes par rapport aux évolutions en cours, mises en œuvre par beaucoup d'administrations et autres structures.
Vous parlez des seniors ?
Je parle des seniors, donc, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a eu, on va dire, dans les populations les plus âgées de notre société, un véritable tournant déjà qui a été pris, qui reste à parachever, mais qui est d'ores et déjà bien en marche.
Frédéric Nérot, est-ce que, puisque vous vous occupez de l'aménagement des territoires en termes d'enjeux, est-ce que justement le très haut débit, la fibre, ça peut permettre à des personnes soit de rester dans des petites communes, soit d'y arriver, ce qu'on appelle les néo-ruraux? Et est-ce que justement cet engagement pour la fibre à l'horizon 2025, vous pouvez assurer aux personnes qu'elles auront une couverture numérique correcte et qu'elles pourront par exemple travailler depuis chez elles et, comme vous le disiez, utiliser Internet parce que c'est utile pour tous les actes de la vie quotidienne ?
Oui, bien sûr, mais il faut d'ailleurs être clair sur un point. Un télétravailleur aujourd'hui n'a pas forcément besoin de la fibre. Si vous voulez, quand vous avez un haut débit de qualité, moi je connais beaucoup de gens qui font du télétravail, c'est suffisant. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix de la généralisation de la fibre ? C'est parce que nous considérons qu'il est de notre devoir de collectivité locale de nous projeter dans l'avenir. Si on raisonnait sur 5 ou 10 ans, il faut être clair, quand on a un ADSL de qualité ou une bonne solution THD radio, c'est suffisant. Mais nous savons très bien que les usages numériques vont de plus en plus se développer, qu'il va y avoir de plus en plus dans les foyers d'objets connectés. Donc il serait irresponsable de ne pas s'engager sur la voie du fibrage généralisé. Mais d'ici là, il y a des étapes qui sont déjà largement accomplies, qui vont se poursuivre jusqu'à fin 2020. Mais effectivement, c'était indispensable parce que parfois on nous dit, finalement, pourquoi, puisque vous allez vous engager sur la fibre, ou finir de vous engager d'ici 2025, pourquoi faire des investissements intermédiaires en quelque sorte? Parce qu'il est difficile de dire aujourd'hui, aussi bien à une petite entreprise qu'à un particulier, écoutez, rassurez-vous, d'ici 4 ou 5 ans, vous serez fibré. Oui, mais quid en attendant? Aujourd'hui, c'est effectivement incontournable. D'ailleurs, on nous le fait souvent remarquer, c'est devenu aujourd'hui un critère important dans le domaine de l'immobilier. Beaucoup de gens se renseignent sur les conditions dans lesquelles est assurée la desserte numérique avant de faire leur choix, ce qui veut dire qu'à contrario, c'est dévalorisant pour un bien quand on est situé dans une commune qui est mal desservie. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a toujours fait en sorte de ne pas perdre de temps, même si créer de nouveaux réseaux, ça se fait évidemment pas en claquant des doigts, mais il nous est apparu absolument indispensable d'accélérer encore le mouvement.
Qu'est-ce qu'on vous demande justement dans les réunions publiques d'information auxquelles vous participez, j'imagine ?
Aujourd'hui, l'attente principale, elle est claire, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle le triple play, c'est-à-dire le téléphone fixe, la navigation sur Internet dans de bonnes conditions et la télévision. L'attente principale de la grande majorité de nos concitoyens, c'est celle-là. Après, vous avez des attentes qui sont peuvent être à un niveau plus élevé, qui vont être celles du télétravailleur qui a des besoins qui justifient d'avoir quand même un débit de l'ordre de 20 à 30 mégas. Voilà, l'attente principale, elle est là. Il n'y a pas aujourd'hui une pression très forte sur le fibrage. Encore une fois, c'est de l'anticipation. On sait très bien que les choses ont beaucoup changé en l'espace de 10 ans et qu'elles vont continuer de beaucoup changer dans les années qui viennent. Donc c'est la raison pour laquelle le fibrage d'ici fin 2025, on peut considérer que c'est un investissement d'avenir. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de territoire qui reste en dehors du coût, si je puis dire, par rapport aux perspectives de développement.
RCF, la joie se partage.
C'est toujours Agora sur RCF Loiré en partenariat avec Maxentre et notre invité est aujourd'hui Frédéric Néraud, vice-président du Loiré chargé du développement des territoires et nous parlons du développement numérique.
Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur des questions qu'on doit vous poser ? C'est bien d'amener le très haut débit, la fibre, etc. Mais des seniors, pour le dire d'une façon élégante, ou des personnes âgées, voire très âgées, sont parfois un peu démunis devant le système Internet, ils savent pas très bien comment ça marche. Ils comprennent mieux comment fonctionne Intermarché que Internet, comme on le dit des fois dans la petite blague qui circule dans le milieu rural. On sait que le département est très soucieux aussi de ces personnes âgées, des seniors, ça fait partie de vos compétences. Il y a un plan Loiret bien vieillir, est-ce que ça peut faire partie des projets que vous auriez ? C'est-à-dire pas seulement d'amener la fibre, mais d'amener... la connaissance, comment le système D, l'apprentissage de toutes ces nouvelles technologies, parce que c'est évident pour nous qui sommes ici très jeunes, mais pour les anciens c'est plus dur.
Bien sûr, non, ça c'est un un vrai souci, et ce doit être une priorité, que de permettre aux plus anciens d'entre nous d'accéder dans de bonnes conditions aux usages numériques. Certains s'y mettent facilement, je crois qu'il ne faut pas globaliser. Hein. Moi, je connais bien des personnes âgées ayant cessé leur activité professionnelle depuis longtemps, mais qui ont pris ça comme un véritable défi et qui veulent vraiment rester dans le coup. Mais vous avez raison, c'est quand même pas le cas de tout le monde. Et cela nécessite effectivement une forme d'assistance qui doit être apportée, qui ne peut pas reposer bien évidemment que sur le département. Je dirais que c'est à beaucoup d'organismes associatifs ou communes, etc., que de participer à cet effort, mais le département est concerné, et d'ailleurs, comme vous l'indiquez, dans le domaine de ces politiques de solidarité, intervient en aidant financièrement des projets qui visent à permettre aux seniors, notamment dans le cadre des politiques d'autonomie, eh bien de maîtriser par rapport à leurs besoins de vie quotidienne l'usage d'Internet.
Oui, parce qu'il y a des objets connectés qui permettent le maintien à domicile, par exemple.
Tout à fait.
Donc là, il faut savoir aussi, enfin, en général, ils sont assez simples d'utilisation, mais il faut quand même les connaître un minimum.
Exactement. Cela fait partie des objets connectés qui se développent beaucoup. Notamment pour la prévention des chutes, mais également dans d'autres domaines. Donc, effectivement, il faut absolument faire, je dirais, cet investissement de la vulgarisation et de la connaissance en direction notamment des publics les plus âgés, mais pas exclusivement d'ailleurs, c'est pas qu'une question d'âge, parce qu'on a aussi des publics qui sont en voie d'exclusion et pour lesquels il faut également, dans toute la mesure du possible, apporter ce soutien.
Si on revient d'un mot sur les zones blanches, est-ce qu'il justement il reste des points difficiles dans le Loiret aujourd'hui?
Il en reste de moins en moins dans la mesure où on intervient dans le cadre des opérations de montée en débit depuis 2015. Mais si vous voulez, c'est un peu le syndrome de l'échelle de perroquet. Au départ, le département est intervenu pour les opérations de montée en débit dans des communes pour lesquelles le débit était inférieur à 2 mégabits, bon, qui était à l'époque le seuil du haut débit. Le seuil du haut débit, depuis, est passé à 3. Je pourrais difficilement dire aujourd'hui à quelqu'un ayant un débit de 3 mégas, ne vous plaignez pas, vous êtes plutôt privilégié. Bon, donc ce qui veut dire que les besoins évoluent et que la notion de zone blanche elle-même a évolué. Il y a de moins en moins de zones blanches, même s'il en reste encore, mais qui se résorbe petit à petit au fil des investissements, où on a moins de 2 mégas, mais par contre, on a encore beaucoup de situations où on est légèrement au-dessus de 2, mais avec des situations qui sont pour autant pas satisfaisantes. Et c'est tout l'objet du déploiement du THD radio et de la création de centraux téléphoniques supplémentaires pour que d'ici fin 2020, partout, ce soit au minimum 8 mégas.
Est-ce que le très haut débit, c'est quelque chose qui transcende les clivages politiques au sein de l'Assemblée départementale?
Ah, complètement. Ah oui. S'il y a bien un sujet, d'ailleurs, heureusement, c'est pas le seul, mais s'il y a bien un sujet qui transcende tous les clivages, c'est bien celui-là. Je crois qu'il y a la même impatience partout, quelle que soit la couleur politique des municipalités, quelle que soit la sensibilité politique des élus départementaux.
Le très haut débit radio, ça passe par les ondes. Est-ce qu'on vous interroge aussi sur ces fameuses ondes qui nous traversent en permanence? Les risques, on sait qu'il y a des personnes qui sont électrosensibles. Alors on ne sait pas très bien encore comment gérer la chose. Est-ce que vous avez été saisi de ça ou pas trop?
Fort heureusement, ce sujet est relativement peu abordé parce que je crois que les gens sont quand même de mieux en mieux informés et savent notamment que ces antennes de THD radio en termes d'émissions d'ondes représentent une quantité marginale et en tout cas infiniment plus faible que celle des antennes de téléphonie mobile qui sont déployées déjà depuis de nombreuses années, voire même certains objets que nous utilisons beaucoup dans notre vie quotidienne et auxquels on ne penserait pas spontanément, je pense au téléphone, quand on aborde ce sujet. Non, sur ce point, on peut considérer qu'en termes de santé publique, il n'y a absolument aucun risque. Et c'est la raison pour laquelle, même si la question nous est parfois posée, c'est de plus en plus rare.
Alors, pour résumer, Frédéric Nérot, vous disiez au début de cette émission que le Loiret pardon, que le Loiret voulait rester dans le coup. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Loiret est assez pionnier ou est-ce que vous êtes dans la moyenne? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Écoutez, en tout cas, on va éviter de faire trop d'autosatisfaction collective, mais en tout cas, on est plus que dans la moyenne, on est dans le peloton de tête des départements, parce qu'on s'est sans doute engagé plus tôt que beaucoup d'autres, mais on a encore du boulot, il y a beaucoup à faire, et c'est l'objet de ce nouveau schéma départemental d'aménagement numérique qui sera présenté à l'Assemblée départementale la semaine prochaine. Mais sincèrement, je le dis en toute objectivité, nous n'avons pas à rougir de la couverture aujourd'hui. Alors bon, vous avez toujours des esprits critiques, et d'ailleurs on le prend avec beaucoup d'indulgence, parce que on comprend parfaitement que compte tenu de la place qu'a le numérique aujourd'hui, nous voudrions tous que tout aille très vite. Mais je pense que dans quelques années, quand on mesurera le temps qu'il aura fallu pour créer un réseau téléphonique homogène sur tout le territoire, un réseau d'électricité. Je pense aussi aux villages qui ne verront jamais le gaz de ville. On s'apercevra, si vous voulez, qu'en matière de numérique, finalement, on sera allé beaucoup plus vite. Et puis, comme je le dis souvent, c'est pas parce que on utilise le mot numérique et qu'on est au 21e siècle qu'on crée de toutes pièces un réseau sur tout le territoire en un an ou deux.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Nérot d'être venu ce matin au micro de RCF Loiret. Merci beaucoup
merci à vous.
Frédéric Sabourin d'avoir co-animé cette émission. Et merci à Stéphane Kuzowski qui était aujourd'hui aux manettes. Cette émission est à retrouver en podcast sur rcf.fr et bien sûr sur le site de Maxentre en tapant maxentre.fr. Bon appétit à tous et bon week-end.